Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre deuxième série concernant la démonologie. Nous arrivons à l'étude numéro 6 et le thème sera la nature de péché. Les chrétiens semblent ne pas bien comprendre en quoi consiste exactement ce que j'appelle notre nature de péché. Le combat spirituel dans lequel nous sommes engagés est bien réel, mais nous devons faire face à nos propres responsabilités devant Dieu. Nous ne pouvons pas rendre Satan et les démons responsables de tous nos péchés. Nous sommes entièrement responsables devant Dieu. Nous devons nous contrôler et cesser de pécher. Je crois que lorsque Adam a succombé au péché, toute sa descendance a hérité de lui cette nature déchue. Notez Romains chapitre 5, verset 12, où il est dit « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Romains 5, verset 12. Maintenant, notez Romains chapitre 5, verset 18 et 19. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de jalousie, de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Oui, en quoi consiste exactement cette nature de péché? C'est ce désir presque continuel de péché qui imbibe chaque partie de notre être. Andrew Murray, un illustre, on peut dire un des plus grands commentateurs de la Sainte Bible, a décrit de la manière suivante. Toute la puissance du péché qui agit en nous n'est rien d'autre que ceci. Nous avons hérité d'Adam une nature déchue. Nous avons hérité cette tendance à la désobéissance. Nous devenons des enfants de la rébellion par notre propre choix personnel. Il est donc clair que c'est pour cela que Christ devait venir, pour ôter cette désobéissance et détruire sa malédiction, sa puissance, ainsi que sa nature maudite et ses œuvres. La désobéissance est à la racine de tout péché et de tout malheur. Le premier objectif du salut qu'il nous offre est de couper cette racine maudite et de restaurer l'homme dans sa destinée originelle, c'est-à-dire une vie passée à obéir à son Dieu. L'apôtre Paul en fait la description suivante dans Romains chapitre 7, versets 19 à 23. Écoutez bien. « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le mal est attaché à moi. » Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je dois dans mes membres, et je vois dans mes membres, une autre loi, c'est-à-dire une loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Romains 7, versets 19 à 23. Il est donc clair que le désir de péché est présent même lorsque notre intelligence désire obéir à Dieu. Le péché constitue une partie intégrante de notre nature humaine. Et c'est pourquoi je l'appelle notre nature de péché. Les Saintes Écritures parlent de cette nature de péché de différentes manières. Parfois, elle est appelée notre vieil homme. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Romains 6, verset 6. Notez maintenant Colossiens 3, chapitre 3, verset 8 à 10, où il est dit « Mais maintenant renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. » Colossiens 3, verset 8 à 10. Parfois, les Saintes Écritures appellent cette nature de péché notre chair ou notre nature charnelle. Notez pour cela Romains chapitre 8, verset 2 jusqu'au verset 8. Écoutez bien. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est évidemment la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne soumet pas à la loi, elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Romains 8, verset 2 à 8. En effet, le péché est intimement mêlé à notre être entier, c'est-à-dire corps, âme et esprit. Et voici donc quelques passages qui nous montrent à quel point le péché règne dans tout notre être. Premièrement, on a dit dans le corps. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Romains 7, verset 24. Deuxièmement, on a dit dans l'âme. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel. J'éprouve le cœur et je sonde les reins. Jérémie 17, verset 9 à 10. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Romains 8, verset 7. Troisièmement, on a dit dans l'esprit. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? L'esprit qui habite en nous a des désirs qui tentent à l'envie. Jacques 4, verset 5. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. C'est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1. Et finalement, notez 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Donc, ces versets nous montrent clairement que les trois domaines de notre être, le corps, l'âme et l'esprit, sont contaminés par le péché. Donc, ces trois domaines doivent être purifiés par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous luttons contre le péché chaque jour, le plus souvent dans nos pensées conscientes. Je pense que nous n'aurons jamais pleinement conscience du terrible boulet que représente pour nous cette nature de péché, tant que nous n'aurons pas reçu nos corps glorifiés et que nous n'aurons pas été définitivement libérés du péché. Oui, les démons nous tentent, et cela pour nous faire pécher. Mais la décision de pécher nous appartient bel et bien. Je répète, mais la décision de pécher, de commettre le péché, nous appartient. C'est nous-mêmes qui choisissons de pécher. Par conséquent, que les démons soient en nous ou qu'ils nous attaquent de l'extérieur, eh bien nous sommes entièrement responsables devant Dieu de tout ce que nous faisons. Vous pouvez être certain que les démons connaissent parfaitement bien notre nature de péché, et c'est pourquoi ils peuvent tellement bien nous manipuler. Toute la Sainte Bible est remplie de versets nous exhortant à faire la guerre à notre désir charnel et de faire des choses qui nous sont interdites. Notez maintenant Hébreux chapitre 12, verset 1, où il est dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Hébreux chapitre 12, verset 1. Et considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Hébreux chapitre 12, versets 3 et 4. Donc, vous êtes-vous jamais sérieusement, chers amis, demandé pourquoi les Saintes Écritures contiennent autant de commandements nous demandant de ne plus pécher? Eh bien, tout d'abord, parce que Dieu est parfaitement saint et juste. Il ne peut pas permettre que le péché demeure en nous. C'est pourquoi Jésus est mort sur la croix pour payer le prix de nos péchés, afin que Dieu ne fasse pas retomber sur nous le juste châtiment et la juste destruction que nous méritons à cause de nos péchés. Car le châtiment ultime du péché, c'est d'être éternellement chassé de la présence de Dieu. Cependant, voyez-vous, trop de gens tombent dans le piège de penser qu'une fois sauvés, eh bien le fait de pécher n'est pas tellement important. Or, l'apôtre Paul aborde très clairement cette question-là. Écoutez bien Romains, chapitre 6, versets 1 et 2, où il est dit « Que dirons-nous donc ? Demeurerions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde ? Bien loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ?» Pourquoi est-il, chers amis, si important pour nous d'éliminer les péchés de notre vie ? Mais parce que le péché, il nous sépare de Dieu. Voulez-vous plus d'abondance dans votre vie? Alors, éliminez donc le péché de votre vie. C'est cela. Oh, il est dit dans 1 Thessaloniciens 4, verset 1. Au reste, mes frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Et notez encore 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 5, c'est la suite. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous absteniez, de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Les Saintes Écritures sont très claires. le seul moyen d'avoir une relation étroite avec Dieu et de vivre une vie abondante en Jésus-Christ, c'est de cesser de pécher. En réalité, est-il dit, il y a un concept très important et même très impopulaire auquel nous devons réfléchir très sérieusement. Voyez-vous, nous devons, chers amis, faire nos preuves devant Dieu. Nous devons démontrer l'obéissance et la foi dans notre vie. Jésus a appris l'obéissance par les souffrances qu'il a subies. Alors, pouvons-nous faire moins que Jésus? Alors, s'il vous plaît, notez Hébreux chapitre 5, versets 8 et 9, où il est dit « Et ayant été exaucé à cause de sa piété, il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut absolument éternel. » Hébreux 5, versets 8 et 9. Donc, c'est un fait certain. Nous ne pouvons pas progresser dans notre croissance dans le Seigneur si nous ne lui prouvons pas, d'abord notre obéissance et notre foi. Tout cela en éliminant le péché de notre vie. L'une des erreurs les plus graves concernant les enseignements donnés actuellement sur le Saint-Esprit, c'est que trop de gens promettent un accès instantané à une grande puissance en Christ. C'est ce qu'ils veulent. Nous ne recevons cette puissance que si nous prouvons à Dieu notre fidélité, évidemment. Je trouve réellement étonnant que Dieu donne autant de puissance à des chrétiens qui viennent de se convertir. Mais nous ne pouvons pas éviter le processus de la croissance et de la purification. Ce processus se poursuivra tant que nous vivrons, mais nous atteindrons un stade où la plus grande part du chemin sera derrière nous. Voyez-vous la parabole de l'homme qui était parti pour un pays très lointain pour recevoir la royauté, elle s'applique bien ici. S'il vous plaît, étudions un peu Saint-Luc, chapitre 19, verset 12, jusqu'au verset 27. Il est dit qu'un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs. Il leur donna des mines et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient, et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et il dit, « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. » Il lui dit, « C'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Le second vint également et dit, « Seigneur, ta mine a produit 5 mines. » Il lui dit, « Toi aussi, sois établi sur 5 villes. » Un autre vint et dit, « Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Il lui dit, « Je te jure sur tes paroles, méchant serviteur, tu savais bien que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque? afin qu'à mon retour, je puisse le retirer avec un intérêt. Puis il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a déjà 10 mines. Ils lui dirent, mais Seigneur, il a déjà 10 mines. Eh bien, je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux et tuez-les en ma présence. Saint Luc chapitre 19, versets 12 à 27. Chers amis, dans cette parabole, quand c'en est une, l'homme qui était parti pour recevoir la royauté, c'est Jésus. Nous sommes donc ses serviteurs qui ont été laissés pour attendre son retour. La question est donc la suivante. Allons-nous rester fidèles et être des serviteurs utiles à leur maître? Ce n'est que en démontrant notre fidélité que nous recevrons davantage de puissance et d'autorité en Christ. Trop de chrétiens ne pensent que aux avantages qu'ils peuvent obtenir de Dieu. Ils ne prennent jamais le temps de penser au fait qu'ils ne sont là que pour être des serviteurs. Le Seigneur Jésus déclare très clairement que les serviteurs doivent faire leur preuve avant de recevoir davantage de puissance et d'autorité. Il en est donc de même aujourd'hui. Malheureusement, trop d'enseignements modernes s'efforcent d'éviter de parler de ce temps de mise à l'épreuve et de croissance. Nous ne devons pas essayer d'éviter ce processus douloureux d'apprentissage, car dans les Saintes Écritures, chaque serviteur de Dieu a dû passer par ce processus-là. Je suis donc convaincu que c'est la raison pour laquelle tant de conducteurs chrétiens chutent, car ils ont été nommés beaucoup trop vite à des positions d'autorité. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul a donné des conseils, les conseils suivants, écoutez bien, à Timothée. Il a dit, n'impose pas les mains à personne ou à toute personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même, conserve-toi pur. 1 Timothée chapitre 5, verset 22. Et notez 1 Timothée chapitre 3, verset 2 à 6, où il est dit, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, qu'il soit mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique et désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu ? 1 Timothée 3, verset 2 à 6. Et il y a même quelque chose pour le diacre. 1 Timothée 3, verset 8 à 10. Le diacre aussi doit être honnête, éloigné de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience absolument pure. Qu'on les éprouve d'abord, et qu'ils exercent ensuite leur ministère. Je dis qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. Les Saintes Écritures ne peuvent pas être plus claires. Tous ceux qui désirent occuper une place d'autorité quelconque dans le royaume de Dieu doivent d'abord prouver leur fidélité dans leur obéissance à Dieu et éliminer le péché de leur vie. Cela prend beaucoup de temps. Les Écritures ne précisent pas combien de temps, cela varie avec chacun, mais cela prend bien un certain temps. En tout cas, dans mon cas, c'était vraiment nécessaire qu'il y avait beaucoup de temps à disposition pour changer, car j'étais évidemment tout le contraire de ce qu'il y aurait fallu. Chers amis, l'autorité que nous exerçons sur le royaume de Satan s'accroît à mesure que nous prouvons notre fermeté et notre fidélité. Je répète, l'autorité que nous exerçons, que nous pouvons exercer sur le royaume de l'ennemi de Satan, s'accroîtra seulement à mesure que, à mesure que nous prouvons notre absolue fermeté et notre fidélité à Jésus-Christ. Donc, nous devons être fidèles dans les petites choses avant d'être fidèles dans les grandes. Je crois que tout chrétien reçoit en Christ autorité sur les démons, même de ceux qui se trouvent en lui-même. Mais il ne doit pas se hâter de chasser les démons des autres. Je dis bien, il ne faut pas qu'il se précipite de chasser les démons des autres s'il n'a pas encore eu le temps de grandir et de faire ses preuves. Mon cœur se serre quand je vois ce qui arrive à ceux qui sortent du satanisme. Ils sont trop souvent sollicités, évidemment, pour donner publiquement leur témoignage partout. On leur paye même l'avion pour cela. L'orgueil couche à notre porte. Ils sont donc soumis à des attaques tellement terribles qu'ils ne peuvent pas tenir longtemps. Voici le conseil que je donne. Humilie-toi sous la puissante main de Dieu et il t'élèvera. Saint Jacques chapitre 4 verset 10. Marche donc tranquillement devant le Seigneur et apprends les leçons qu'il veut que tu apprennes. Démontre ta fidélité et ton obéissance, même si tu es fortement tenté de le faire, eh bien ne permets jamais qu'un jeune converti qui vient de se convertir soit nommé à un poste de responsabilité publique, car si tu le fais, eh bien tu auras contribué à sa destruction, tu en seras responsable. Notre Seigneur est tellement rempli de miséricorde, il nous permet d'accomplir un certain travail pour lui, en particulier en évangélisant, même si nous sommes des bébés en Christ qui commencent à apprendre à marcher. Il le fait pour nous encourager, mais nous devons accepter de passer par ce processus de formation et de mise à l'épreuve. Sinon, il ne pourra jamais nous utiliser pleinement comme il le désire. Nous ne pouvons réellement enseigner aux autres que les leçons que nous avons nous-mêmes apprises. Nous ne pourrons jamais croître ou faire notre preuve tant que nous continuerons à pratiquer activement le péché dans notre vie. Dieu a tellement désiré nous purifier du péché, qu'il a donné sa propre vie pour notre purification. Nous aussi, nous devons tellement désirer être libérés du péché que nous devons accepter de renoncer à tout, quelle que soit la souffrance qu'il en résulte, pour éliminer les péchés de notre vie. D'accord, chers amis? Nous savons à présent que nous devons arrêter de pécher, mais nous devons tout de même mener ce terrible combat que l'apôtre Paul décrit dans le chapitre 7 de l'Épître aux Romains. Comment pouvons-nous donc avoir la victoire dans ce combat contre notre nature de péché? La réponse est simple. Nous devons avoir plus de puissance que notre nature de péché, sinon nous ne pourrons jamais la vaincre. Où pouvons-nous obtenir cette puissance-là? Je crois que les versets suivants nous donnent la réponse. Notez Romains chapitre 8, versets 1 et 2, où il est dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ qui marchent, non selon la chair, mais selon l'Esprit. » En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, elle m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. J'ai dit Romains 8, versets 1 et 2. Jésus nous a donc libérés de la puissance du péché en mourant sur la croix. Dès que nous le recevons comme notre Seigneur, Sauveur et Maître, nous avons cette puissance à notre disposition. Nous n'avons pas encore reçu tout ce que Dieu a promis de nous donner. Plus tard, lorsque Christ reviendra, eh bien chacun de nous recevra le reste de tout ce que Dieu nous a promis dans notre rédemption. Nous recevrons un nouveau corps glorifié, exactement semblable au corps que Jésus possède actuellement. En outre, pour couronner le tout, notre nature de péché sera complètement éliminée de telle sorte que nous n'aurons plus jamais à le combattre. Cela est du reste confirmé par Philippiens chapitre 3, versets 20 et 21, où il est dit « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Philippiens 3, versets 20 et 21. C'est donc là notre merveilleuse espérance. Un jour, nous n'éprouverons même plus le désir de pécher. Alléluia. Nous serons continuellement dans la présence du Seigneur et nous le connaîtrons face à face. Combien il me tarde de parvenir à ce jour-là. En attendant, eh bien, je dois continuer de lutter contre le péché. Le chemin de la victoire sur le péché dans notre vie est en réalité un double chemin. Le premier et le plus important moyen d'obtenir la victoire, cela réside dans l'œuvre du Saint-Esprit dans notre vie. Le second moyen nous est révélé dans l'Épître aux Romains. Je veux d'abord traiter la seconde partie de la réponse. Donc il est dit, « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. » Romains, chapitre 8, verset 5. Ensuite, en langage simple, plus nous passerons de temps chaque jour à lire la Sainte Bible, à réfléchir à la Sainte Parole de Dieu et à penser à Dieu, et plus nous aurons la victoire sur notre nature de péché. Le roi David, ainsi que Josué avant lui, ont appris cette leçon. Il est dit dans le psaume 119, versets 9 à 11, « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin, loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Psaume 119, versets 9 à 11. Dieu avait donc commandé ceci à Josué, Josué chapitre 1, verset 8. Il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Vous savez, il y a quelque chose concernant la Sainte Bible qui la rend différente, totalement différente, de n'importe quel autre livre au monde. Elle est littéralement vivante. Elle est vivante parce qu'elle est la voix de Dieu pour nous. Notez Hébreux chapitre 4, verset 12. Car ta parole, la parole de Dieu, est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager en mes esprits, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux, chapitre 4, verset 12. Donc, aucun autre livre, oui, aucune autre page imprimée au monde ne possède la puissance unique de la Sainte Bible. Plus nous saturons notre vie tout entière, ainsi que nos péchés, des Saintes Écritures, et plus nous aurons de puissance pour vivre dans l'obéissance à la Sainte Parole de Dieu. Plus nous pourrons donc éliminer le péché de notre vie, et cependant il nous faut étudier bien entendu la Bible dans le but de lui obéir. Si, par exemple, si vous vous habituez à étudier la Bible sans être sérieusement et fermement déterminé à lui obéir, vous avez bien compris, sans être sérieusement et fermement déterminé à lui obéir, eh bien, vous vous endurcissez dans la désobéissance. Ne lisez donc jamais la parole de Dieu en ce qui vous concerne sans accepter honnêtement et de tout votre cœur de lui obéir immédiatement et sans demander la grâce nécessaire pour le faire. Dieu nous a donné sa sainte parole pour nous dire ce qu'il veut que nous fassions et pour nous démontrer la grâce qu'il nous offre en nous rendant capables de le faire. Qu'il est donc triste de penser que nous sommes pieux et de nous contenter de lire cette parole sans faire sérieusement l'effort de lui obéir. Que Dieu nous garde de cet horrible péché, puissions-nous prendre l'habitude sacrée de lire et de dire à Dieu, « Seigneur, chaque fois que je connaîtrai ta volonté, eh bien je veux m'y soumettre immédiatement. » Lisez donc toujours la Bible avec un cœur entièrement disposé à obéir. Avez-vous déjà remarqué combien il était difficile de prendre la Bible et de la lire, surtout si vous avez laissé passer plusieurs jours sans la lire? Combien notre nature de péché reprend des forces si nous ne la tenons pas en bride? L'apôtre Paul, après de nombreuses années de ministère, a fait une profonde déclaration à ce sujet-là. Il a dit dans 1 Corinthiens 9, verset 27, « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur, oui de peur, d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Je suis tellement reconnaissant au Saint-Esprit d'avoir poussé l'apôtre Paul à faire cette déclaration-là. Cela m'a beaucoup aidé de savoir que même l'apôtre Paul a dû lutter toute sa vie contre sa nature de péché. La véritable clé de la victoire sur le péché consiste à contrôler nos pensées. Oui, parce que c'est ce que signifie ce passage de Romains 8, verset 5. Plus nous aurons nos pensées attachées aux choses de Dieu, et moins nous commettrons de péchés. Un chrétien devrait normalement vivre une vie telle qu'il ne pécherait que très rarement. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Jean, a écrit ceci dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 1. « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, c'est Jésus-Christ le Juste. » Chers amis, ce n'est que grâce à l'aide du Saint-Esprit que nous pourrons dominer notre nature de péché et cesser de pécher. Je viens de vous dire que la maîtrise de notre nature de péché nécessitait de remplir deux conditions. La première consiste, et nous l'avons vu, à contrôler nos pensées et à saturer notre intelligence de la sainte parole de Dieu. La seconde consiste à être rempli de la puissance du Saint-Esprit. Il nous faut donc il nous faut remplir ces deux conditions-là. Plus je marche avec mon maître, et plus je suis conscient de ma totale impuissance personnelle à affronter et à éliminer les péchés dans ma vie. Mais gloire à Dieu, la puissance du Saint-Esprit me rend coupable. Non, excusez-moi, ma bouche a fourché. Je n'ai pas le droit de vous dire de mon grand âge que c'est une excuse. Non, non, non. Alors, je veux redire tout cela. Plus je marche avec mon Maître, mon Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, et plus je suis conscient de ma totale impuissance personnelle à affronter et à éliminer les péchés dans ma vie. Mais gloire à Dieu, la puissance du Saint-Esprit, c'est cela qui me rend capable, absolument capable, d'avoir quoi ? D'avoir la victoire. Alléluia. Regardez ce verset de Saint Jean, chapitre 16, verset 7. Lorsque Jésus vivait sur cette terre, dans un corps physique, eh bien ses disciples le suivaient fidèlement et Jésus les aidait chaque jour. Oui, on peut dire chacun en particulier. Dès que Jésus a eu quitté cette terre sous sa forme corporelle, il a pu envoyer le Saint-Esprit pour œuvrer dans ses disciples de l'intérieur. Donc Jésus a rendu cela possible en payant le prix pour nos péchés sur la croix. Et lorsque nous sommes lavés de nos péchés, alors Dieu lui-même, sous la forme du Saint-Esprit, peut enfin entrer en nous et nous donner la puissance dont nous avons besoin pour vaincre le péché. Si vous ne vous êtes jamais mis à genoux pour demander à Dieu le Père de vous remplir complètement du Saint-Esprit, pour vous donner la puissance nécessaire pour cesser de pécher, alors vous avez besoin de le faire maintenant. Mais c'est une voie à double sens. Plus vous saturez votre intelligence de la Sainte Parole de Dieu et éliminez les péchés de votre vie, et plus le Saint-Esprit sera libre d'agir dans votre vie avec puissance. Mais, je vous en prie, ne tombez pas dans le piège de penser que tout ce qu'il vous faut, c'est uniquement le Saint-Esprit, et que vous n'avez plus jamais besoin de faire quoi que ce soit vous-même. Ça, c'est une philosophie totalement erronée. Ce n'est absolument pas vrai. Saint Jacques, le disciple, le résume d'une manière très simple. Il dit, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui vous sauve et qui peut sauver vos âmes, qui va sauver vos âmes, qui va vous sauver. Jacques chapitre 1 verset 21 à 25. Voyez-vous, aujourd'hui, nous sommes beaucoup trop souvent tombés dans le piège de la recherche des seuls signes et miracles. C'est pourquoi les bibliothèques des chrétiens contiennent beaucoup de livres expliquant comment on peut être guéri ou comment accomplir des miracles. Dieu s'intéresse beaucoup plus à notre propre obéissance quotidienne et à notre marche fidèle que à accomplir de très grands miracles, des signes et des prodiges. Trop souvent, les chrétiens d'aujourd'hui tombent dans le piège de la séduction, surtout quand ils sont nés de nouveau, quand ils deviennent chrétiens tout au début, et qu'ils acceptent des contrefaçons démoniaques sans le vouloir, en croyant que ce sont des signes et des miracles qui seront, soi-disant, accomplis par Dieu. Vous ne pouvez pas manifester dans votre vie les véritables signes et miracles qui sont produits par le Saint-Esprit, sans vouloir marcher dans l'obéissance et dans la discipline, et sans éliminer les péchés de votre vie. Je crois que on doit être logique, non ? Chers amis, le Saint-Esprit vous rendra puissamment en aide, il vous viendra puissamment en aide, et cela, si seulement vous voulez lui obéir. Je répète, le Saint-Esprit vous viendra, à vous qui écoutez maintenant, puissamment en aide, si seulement vous voulez lui obéir. Je veux vous donner un très important principe. La racine de tout péché, c'est l'égoïsme. On le fait d'être concentré uniquement sur soi-même. Comme nous aimons penser constamment à nous-mêmes, la racine de toute maladie mentale, c'est le péché de l'égocentrisme. Un malade mental ou quelqu'un qui a beaucoup de problèmes dans sa vie est caractérisé par le refus de penser à quelque chose ou à quelqu'un d'autre que lui-même. Je ne dis pas cela pour tout le monde, mais c'est souvent le cas. Les malades mentaux choisissent parfois d'être malades mentaux, et cela pour l'essentiel de leur maladie. Bien entendu, ils invoquent comme raison le fait qu'ils ont été rejetés et blessés dans le passé. Mais prenez le temps de réfléchir un moment. Existe-t-il quelqu'un qui ait été beaucoup plus rejeté et beaucoup plus blessé que Jésus? Non, non, non. Tant quel affreux pétrin nous serions si Jésus avait choisi de passer son temps à s'apitoyer uniquement sur lui-même et à s'étendre sur les blessures et le rejet dont il a souffert. La plupart des gens, qu'ils soient considérés comme malades, mentaux ou non, passent l'essentiel de leur vie à penser à eux-mêmes. Ceci est particulièrement vrai pour ceux qui ont ce que l'on appelle un complexe d'infériorité. Je le sais car j'ai été coupable de ce péché pendant de nombreuses années. Ce fut l'une des premières choses que le Saint-Esprit m'a demandé de régler après avoir fait de Jésus le maître de ma vie. Chers amis, soyez donc miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Absolvez, et vous serez absous. Oui, Saint Luc chapitre 6, versets 36 et 37. Et Éphésiens 4, versets 30 et 32, dit ceci. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Chers amis, voici les quatre étapes fondamentales à franchir pour pardonner à ceux qui vous ont offensé. Premièrement, nous ne pardonnons pas parce que nous sentons que nous avons pardonné. Nous pardonnons par obéissance uniquement, par obéissance à un commandement de Dieu et par une pure décision de notre volonté. Deuxièmement, lorsque nous pardonnons à quelqu'un, nous reconnaissons par là que nous abandonnons tout droit de nous venger. Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Et encore le Seigneur, il jugera, oui, il jugera son peuple Ça, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Hébreux chapitre 10, versets 30 et 31. Et il est dit, priez pour ceux qui vous maltraitent. Saint Luc 6, verset 28. Troisièmement, lorsque nous pardonnons à quelqu'un, nous devons le faire en suivant l'exemple de Dieu. À partir du moment où nous avons pardonné, nous n'avons absolument plus le droit de garder dans notre pensée le souvenir de ce qui a été fait pour nous blesser. Nous devons donc discipliner nos pensées et cesser de penser à nous-mêmes. Notez Hébreux chapitre 8, verset 12, « Parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus du tout de leurs péchés. » Et quatrièmement, lorsque nous avons franchi ces étapes dans l'obéissance à Dieu, eh bien nous pouvons alors demander au Père de contrôler et de changer nos émotions concernant cette situation. En tant qu'être humain, nous ne pouvons pas faire grand-chose pour contrôler ou pour modifier nos émotions, mais le Seigneur, il peut et il veut le faire quand nous lui obéissons et que nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Je sais que beaucoup de ceux qui m'écoutent maintenant seront très irrités parce que je dis, mais je dois vous parler selon ce que le Seigneur m'a enseigné. C'est pas parce que je dis des choses maintenant qui ne sont pas très joyeuses à accepter qu'il faut éviter de continuer d'écouter. Vous n'avez pas le droit, chers amis, de passer votre vie à réagir aux blessures que vous avez reçues dans le passé. Dieu exige que vous pardonniez, que vous oubliez et que vous cessez de penser à vous-même et à la manière dont vous avez été blessé. Si vous ne le faites pas, eh bien, cela signifie que vous pratiquez ouvertement le péché. Qu'est-ce que j'ai pas dû pardonner dans le passé? C'est incroyable. Et j'ai aussi dû beaucoup me pardonner. En dernier lieu, nous devons tous parvenir à cette maturité en Christ, où ce verset de Saint Jacques, chapitre 4, verset 17, qui dit deviendra et deviendra enfin une réalité dans notre vie. Il faut que ce verset de Jacques 4, verset 17 puisse devenir une réalité dans notre vie. Celui donc, est-il dit, qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, qu'est-ce qu'il fait? Il commet un péché. Jacques 4, verset 17. Donc, pour dire les choses très simplement, nous devons faire ce qui est juste simplement parce que cela est juste et pas seulement parce que quelqu'un l'exige de nous. Si seulement nous pouvions atteindre ce stade-là, eh bien nous verrions tout simplement disparaître énormément de problèmes relationnels entre nous. Oui, nous allons terminer notre étude maintenant, je dirais pour terminer, acceptons, chers auditeurs et chères auditrices, de mener ensemble ce combat contre notre nature de péché et remportons ainsi la victoire. Chers amis, c'est la clé d'une vie abondante en Jésus-Christ notre Seigneur. Si tu es convaincu que tout ce que tu viens d'entendre, que tu dois te lever et que tu dois dominer ta nature de péché, eh bien tu feras bien de commencer à confesser à Dieu tous tes péchés passés. Bien sûr seulement si cela n'a pas déjà été fait, évidemment. Chers amis, nous allons maintenant terminer ensemble par la prière. Prions. Seigneur notre Dieu, nous recourons à toi dans le sentiment de notre misère morale et de notre faiblesse, sachant que toi seul peux nous fortifier, nous protéger et nous bénir. Comme sans cesse tu renouvelles sur nous tes bienfaits, nous devons sans cesse aussi t'en témoigner notre gratitude. Tu nous as donné des cœurs pour t'aimer, nous devons donc te chercher avec amour et confiance. Mais combien nous sommes loin, loin d'accomplir le commandement qui nous dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Et cependant, à qui irions-nous que à toi, Seigneur, pour nous défendre contre nous-mêmes? C'est donc dans notre propre cœur que sont nos plus dangereux ennemis. Garde-nous donc de notre faiblesse, de notre corruption. Délivre-nous de tout orgueil et de toute confiance en nos propres forces. Fais que nous marchions en toute humilité avec toi et que ta grâce ne nous abandonne jamais. Dieu de notre salut, soutiens à chaque pas notre course. Ne t'éloigne pas un moment de nous, car un moment suffit pour nous faire succomber. Affermis-nous quand nous chancelons. Relève-nous quand il nous arrive de tomber. Sauve-nous, car sans toi, nous périssons. Que nous, nous tenions toujours attachés à toi, ô Sauveur de nos âmes, pour t'aimer et pour t'imiter. Nous te supplions d'exaucer les prières que nous t'offrons pour nos familles et nos amis, pour les malades et les affligés. Soutiens-les, Seigneur, par ta puissance infinie, et sois leur force, sois leur consolation, sois leur salut, et dans la vie, et ainsi aussi dans la mort. Reçois nos supplications par le saint nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur bien-aimé. Amen. Et chers amis, comme vous le savez, et vous le savez toujours mieux maintenant, Dieu vous aime. Il vous aime tellement. Et de ce fait, il est de mon devoir, de vous aimer de tout mon cœur. Et maintenant, je vous enlace et je vous embrasse avec tout mon amour. Et je vous demande, prions les uns pour les autres, aimons-nous comme jamais nous l'avons fait. À demain pour la suite de cette série. Au revoir, mes très chers amis.